Eh bien voilà, nous allons enregistrer la conférence, donc l'interview de Jean Audouze à l'occasion de sa conférence du 20 février 2001 au conversatoire de région, heureusement. Voilà. Monsieur Audouze, bonsoir.
Bonsoir.
Alors nous sommes heureux de vous recevoir, bien sûr, pour cette conférence qui va avoir lieu dans quelques instants, où vous allez nous parler de l'évolution de l'histoire de l'univers. Alors même la question qui me vient tout naturellement, compte tenu de votre passé d'astrophysicien, de physicien nucléaire, donc des particules subatomiques dès le départ, mais vous êtes intéressé, peut-être qu'on va commencer par ma première question, sera à quoi vous êtes-vous intéressé au début de votre carrière, donc après, au moment de votre thèse ? Avec Hubert Reeves, je crois.
Je me suis d'abord intéressé à des problèmes de ce qu'on appelle la nucléosynthèse, c'est-à-dire les transformations des atomes les uns dans les autres. Comme vous pouvez le constater, il y a différentes espèces chimiques, carbone, l'azote, l'oxygène, mais aussi des substances beaucoup plus rares, le lithium, le bore ou que sais-je encore. Et donc mon travail a été d'essayer de comprendre comment certains éléments qui sont assez rares, qu'on appelle les éléments légers, lithium, beryllium, bore, comment ils sont fabriqués à partir du carbone, de l'azote et de l'oxygène, qui sont plus lourds. Et alors, contrairement à ce qui se passe à l'intérieur des étoiles, où vous passez des éléments légers, hydrogène, hélium, à des éléments plus lourds, carbone, azote et oxygène, là, vous faites l'inverse. Alors, ça peut se passer ou à la surface des étoiles, ou dans ce qu'on appelle les sursauts, les flares, les sursauts stellaires, ou bien, disons, dans le milieu interstellaire, par l'interaction de particules qu'on appelle le rayonnement cosmique, qui sont très énergétiques sur le milieu le gaz interstellaire, eh bien, ces réactions permettent de comprendre comment on passe d'éléments très abondants à des éléments moins abondants, comme ceux que je viens de mentionner, lithium, beryllium, bore. Et à partir de là, on peut comprendre la physique de cette interaction. C'est-à-dire qu'on a un traceur. La répartition relative des abondances, ce qu'on appelle le pourcentage, si vous voulez, de la présence ou de la présence de ces éléments, et comment on passe, si vous voulez, de cette présence à des calculs sur les flux de ces particules, le temps qu'elles transitent dans le milieu interstellaire, etc. Alors après, comment passe-t-on à l'univers dans son ensemble ? Ça ne vient pas tout de suite. Ça vient du fait que en ce qui me concerne, si vous voulez, les éléments légers, lithium, beryllium, bore, sont fabriqués justement par ce rayonnement cosmique. Or, il y en a un qui est un peu hybride, qu'on appelle le lithium-7, c'est-à-dire celui qui a 7 nucléons. Il y a un autre qui est le lithium-6, qui n'en a que 6. Alors, le lithium-6, lui, n'est fait que par le rayonnement cosmique, mais le lithium-7, curieusement, il est fait à un moment, dans les phases primordiales de l'univers, ce qu'on appelle la nucléosynthèse, entre guillemets, primordiale, enfin, qui a eu lieu globalement à l'échelle de l'univers, mais au moment où il n'y avait pas d'étoiles, mais le moment où la température de l'univers était à peu près de quelques milliers, de l'ordre du milliard à quelques dizaines de millions de degrés, puisque vous savez que le Big Bang suppose un refroidissement de cet univers. Et là, il se passe des choses intéressantes. Et justement, le lithium m'a amené naturellement à m'intéresser à ces réactions. Et à partir de là, on s'est aperçu que si on connaît la répartition relative de certains éléments, par exemple, comme le deutérium, qui est l'isotope lourd de l'hydrogène, l'eau lourde dont on a parlé, qui sert à ralentir les neutrons dans les piles atomiques, eh bien, la répartition entre ce deutérium et l'hydrogène vous donne une indication de la densité globale de la matière nucléaire. Voilà, si vous voulez, un peu le cheminement par lequel je suis passé mon intérêt sur les phénomènes stellaires aux phénomènes qui se passent dans le milieu interstellaire jusqu'à m'intéresser à la physique nucléaire qui s'est produite vraiment juste après, pendant ce qu'on appelle les 3 minutes, entre une seconde et 3 minutes après l'hypothétique Big Bang. Et à partir de là, bon, vous comprenez, quand on est là, on se dit, on veut savoir un petit peu ce qui s'est passé avant. Et alors là, on rentre dans un autre domaine qui est celui de la physique des particules. C'est-à-dire que là, ce n'est plus les noyaux qui sont importants, c'est les constituants des noyaux. D'abord les nucléons, protons, neutrons, puis avant ça, les constituants des protons et neutrons qui sont les quarks. Et en fait, La compréhension du Big Bang est un peu un exercice que les physiciens des particules sont les mieux à même de faire. Lorsqu'on parle, par exemple, vous avez sûrement entendu parler de cette expression que l'expansion de l'univers a été accélérée par un mouvement dit d'inflation, eh bien, c'est finalement ces théories inflationnaires ont été introduites par les physiciens des particules qui voulaient chercher à unifier les forces fondamentales nucléaires, vous voyez. Donc, lorsque vous faites de la cosmologie, vous faites bien évidemment de l'astronomie, vous regardez les objets, vous regardez les amas de galaxies, vous utilisez les plus grands télescopes, et puis en même temps, vous êtes intéressé par les résultats des physiciens des particules. Donc il y a une communauté, on appelle ça astroparticules, qui est presque équivalent ou synonyme de cosmologie, parce qu'effectivement, si on comprend un jour pourquoi il y a plus de matière non nucléaire que de matière nucléaire, eh bien, ce sera la réponse, elle viendra nécessairement des accélérateurs du CERN ou de Fermilab, ou d'ailleurs, oui. Donc il y a finalement une espèce de convergence entre, on regarde loin, on regarde des amas de galaxies, on regarde les grandes structures de l'univers, on analyse le rayonnement diffus, le rayonnement à 3 degrés K de Penzias et Wilson, et puis on cherche le boson de Higgs, on cherche les quarks, et tout ça finalement procède de la même... Enfin, on arrive au même résultat, c'est-à-dire d'essayer d'avoir un récit à peu près raisonnable sur ce qui a pu être l'histoire de l'univers. Voilà, si vous voulez, le cheminement par lequel je suis parti des réactions de spallation pour arriver à m'intéresser à la cosmologie.
Oui, vous avez en quelque sorte devancé ma question, puisque j'allais vous demander comment on passe des étoiles à l'univers tout entier. Mais je crois que c'est très important de rappeler, comme vous l'avez fait, que finalement, pour comprendre des choses qui sont très loin de nous, quelquefois on a recours à des expériences qui sont faites sur Terre. On reproduit ni plus ni moins d'ailleurs ce qu'avait fait par exemple Galilée à propos de la chute des corps, ce qui lui a permis finalement, ce qui a permis en tout cas aux successeurs d'établir la théorie de la gravitation. Et là, donc, vous avez étudié d'abord ce qui se passait dans les étoiles pour arriver après dans l'univers autour des étoiles, et grâce à ces réactions qui se passaient dans les étoiles, on peut comprendre les phénomènes physiques qui se déroulent dans l'univers interstellaire, et retour donc en fin de compte sur les réactions dans l'univers primordial. C'est un petit peu ce que vous avez dit. Et maintenant, en fait, pour revenir un petit peu sur cette théorie du Big Bang et sur ce que la théorie cosmologique actuelle, elle a bien sûr bénéficié des retombées, on pourrait dire, de la physique nucléaire. Est-ce qu'il y a d'autres pièces du puzzle qui viennent compléter ce qu'on connaît de cet univers primordial et qui sont pas forcément de l'ordre de la physique des particules?
Alors, évidemment, ce qu'elle intègre bien, c'est je dirais que la théorie du Big Bang est la fille naturelle de la théorie de la relativité générale. C'est-à-dire que là, relativité générale dit quelque chose d'important sur lequel justement Einstein s'est penché, c'est à savoir que il a écrit ces équations donc qui décrivent le mouvement de tout, hein, et en particulier ce qu'il a montré, c'est que la présence de matière courbait, disons introduit une courbure dans l'univers. Il a écrit ces fameuses équations dont il y a des formules un petit peu plus simples, mais finalement qui disent ceci, et ça a été apprécié par Hawking et Penrose, qui montrent que là, il n'y a pas de solution stable de la relativité générale. C'est-à-dire qu'un univers qui est, disons, décrit par la relativité générale est soit en expansion, soit en contraction. Il ne peut pas être au repos. Et il faut savoir que Einstein n'a pas apprécié, il l'avait bien senti, parce que c'est une conséquence mathématique de ces équations, et il a donc inventé ce qu'on appelle la fameuse constante cosmologique, lorsque Hubble a découvert l'expansion de l'univers, évidemment il a récusé cette fille indigne qui était sa constante cosmologique, et nous actuellement, lorsqu'on parle de quintessence, c'est-à-dire du fait que la matière proprement dite, l'énergie sous forme de matière n'est pas suffisante pour expliquer le taux d'expansion de l'univers, eh bien, alors, on parle, certains diront énergie du vide, d'autres diront densité d'énergie primordiale, ou d'autres diront densité ou énergie qui se propage ou qui se perpétue ou qui naît ex nihilo au cours de l'expansion, enfin en tout cas. Eh bien là, effectivement, ce n'est plus la physique des particules, la physique nucléaire sont impuissantes à décrire, effectivement, ça ne suffit pas, si vous voulez, pour avoir une vision complète de cette théorie du Big Bang. La théorie du Big Bang, vous savez, moi, je n'ai pas d'attachement religieux à son propos. Simplement, aujourd'hui, et c'est ce que je dirai lorsque je vais faire la conférence, enfin, mon propos, c'est qu'elle est cohérente, c'est-à-dire qu'elle rend compte de ce dont on dispose. Et ce qui est curieux, c'est que, par exemple, l'année dernière, on a un vol-ballon pour mesurer les distorsions du rayonnement fossile, et par bonheur, le théorie du Big Bang passe ce test. Un autre de mes collègues vient de l'Institut d'astrophysique, a pu mesurer la température du fond diffus il y a 12 milliards d'années, et puis il découvre que ce fond avait une température de 9-10 degrés Kelvin, c'est-à-dire qu'il va bien, c'est un point. Donc, elle a quand même, cette théorie, malgré son côté un peu, je dirais, ad hoc, hein, c'est pas agréable de se dire, il y a 15 milliards d'années, il y a eu un événement contingent qui s'est produit. Les physiciens n'aiment pas ça, hein, ça je dois dire, et puis donc j'aime pas bien ça, ça a un côté magique. Mais malgré tout, on est forcé de dire qu'aujourd'hui, les tests que l'on propose à cette théorie du Big Bang, eh bien, cette théorie, aujourd'hui, j'ai suis venu il y a 8 ans ou 8 ou 9 ans dans votre ville, eh bien, je m'aperçois qu'en 8 ou 9 ans, il y a eu Kobe, il y a eu Boomerang, il y a la découverte des raies d'absorption autour des quasars de très, très grand redshift, et tout ça, pour le moment, ben, ça semble coller. C'est tout ce que je peux dire actuellement.
Alors j'ai une dernière question qui n'est pas une petite question bien sûr, puisque on a entendu parler récemment d'un univers plat. Alors je sais bien quelle distance il peut y avoir entre la représentation, je dirais, imagée que l'on peut faire des phénomènes à cette échelle-là, entre un univers plat, courbe et tout ce qu'on peut dire. Il ne s'agit bien entendu pas d'une courbure ou d'une platitude d'ordre géométrique, simple en tout cas. Mais c'est plutôt de la géométrie de l'espace-temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'on entend par un univers plat ?
L'univers plat, il n'y a rien de mis. Enfin, c'est, de mon point de vue, ce n'est pas une bonne dénomination. Parce que ça correspond, si vous voulez, à un univers qui est à la frontière entre un comportement où il va se dilater, pour, disons, de façon continue. Un univers plat se dilate, de toute façon. Mais il suffirait que sa densité globale soit infiniment, disons, passe plus epsilon et il se passe contracté. Ça veut dire simplement que sa courbure est négligeable par rapport à ses dimensions. Alors c'est pour ça. Alors moi j'aurais préféré pour qu'on n'induise pas les gens à cette notion d'univers plat est une notion qui est un petit peu, comme vous venez de le souligner, qui prête un peu à confusion. On aurait dû dire que c'est un univers d'Einstein de Sitter parce que ça dit exactement ça. D'Einstein on pourrait dire parce que c'est Einstein qui a découvert qu'effectivement lorsque l'univers globalement, tous les univers s'arrangent pour arriver à avoir une densité globale qui est égale à la densité critique. Ça, c'est une des conséquences de l'hypothèse de l'inflation. Et on s'aperçoit qu'effectivement, alors pour qu'il soit plat, c'est ce qu'ont découvert Boomerang et compagnie, ces dernières expériences, et surtout ce que nous a permis de découvrir ce qu'on appelle le grand programme du télescope Hubble, où on a regardé la distribution des supernovées en fonction de leur distance, et on s'est aperçu qu'elles étaient moins lumineuses que ce qu'on croyait. Donc, elles se sont, si on croit que ces supernovées ont gardé une densité, ont gardé une luminosité constante, donc on imagine que l'univers a accéléré son expansion. Et ça, ça va bien dans le sens où, effectivement, la courbure de l'univers devient négligeable par rapport à cette expansion, et d'où le concept d'univers plat. Mais, vous voyez, j'ai besoin de dire un certain nombre de phrases pour expliquer ce concept, et c'est vrai que, de temps en temps, Big Bang, ça n'a pas été un bang, il n'y a pas eu de discontinuité des conditions thermodynamiques, ça n'a pas été Big, puisque c'était vraiment... Vraisemblablement, ça s'est produit dans une... L'univers plat, la platitude, ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que c'est un univers qui, au lieu d'être hyperbolique, c'est-à-dire d'avoir une expansion très rapide, ou elliptique, c'est-à-dire d'avoir une contraction, eh bien, il est gentiment parabolique, c'est-à-dire qu'il se conduit le plus simplement possible. Alors j'aurais dit univers standard, c'est-à-dire l'univers le plus vraisemblable, mais le mot plat, effectivement, peut induire dans les esprits une certaine impropriété.
Je ne voudrais pas faire un jeu de mots facile sur la platitude d'un tel univers qui est finalement banal, parce que derrière Xénos...
Selon moi, l'univers n'est pas banal. Ça. On est parti, vous voyez, des étoiles, le rayonnement cosmique, même s'il est plat. Cette image qui est dans le langage commun ne s'applique pas à l'univers.
C'est ce que j'allais dire, puisqu'il est loin d'être de montrer de la platitude, puisqu'il recèle tellement de... non pas de mystère, mais tellement de richesses, on pourrait dire, que la science va révéler progressivement et qui nous a déjà fascinés. Merci Jean Audouze.
Merci beaucoup. Merci Daniel.